Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être ici ce soir pour la conférence de Monsieur Mathieu Daltic que nous avons le plaisir de recevoir. Ayant commencé ses études à l'école des Chartes, il est archiviste paléographe, puis il change d'orientation pour embrasser une carrière de conservateur de musée et à ce titre, il est titulaire du concours national du patrimoine. Par la suite, il a été nommé conservateur des musées de châteaux nationaux au ministère de la Culture et actuellement, il est conservateur du patrimoine au musée Condé du domaine de Chantilly. Dans ce cadre, il a organisé, il a été commissaire de l'exposition Condé, rival du Roi Soleil, qui s'est déroulée au musée de Condé de Chantilly de septembre 2016 à janvier 2017. Et actuellement, il prépare deux expositions consacrées à la Renaissance italienne, les peintures et les dessins, qui ouvriront leurs portes le 24 mars prochain, toujours à Chantilly, dont il est commissaire. Pour la conférence de ce soir, il s'agit du domaine de Chantilly, puisqu'il va nous parler du Grand Condé, cousin du roi, véritable fondateur de ce qu'est aujourd'hui le domaine de Chantilly, musée Condé. Je vous remercie, M. Daltic, d'être ici ce soir avec la Société des Amis du Musée. Merci.
Alors, je vous remercie de cette invitation et de cette présentation. C'est un vrai régal d'être ici parmi vous, d'être dans une société qui s'intéresse à l'art et l'histoire. Et ce soir, on va s'intéresser à une belle tranche d'histoire, une histoire du XVIIe siècle, qui va nous amener vers une belle tranche d'art, qui est celle du château de Chantilly, pendant le siècle de Louis XIV. Alors, évidemment, le Grand Condé, vous en connaissez certaines facettes de sa personnalité, de son histoire, et vous avez vu ce sous-titre ici à l'écran, le rival du Roi Soleil, point d'interrogation. Et ce point d'interrogation est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que finalement, à la fin de la conférence, vous aurez votre propre réponse à cette question. Moi-même, dans l'exposition dont j'ai été commissaire ou dans les différentes présentations ou le catalogue que j'ai pu écrire, je présente les différents aspects de rivalité du Roi Soleil avec le Grand Condé, une rivalité politique et militaire, une rivalité dans le domaine des arts, le domaine des lettres. Mais finalement, c'est une question qui peut se répondre par l'affirmative ou par la négative. Vous le verrez, le Grand Condé fut à la fois le grand rebelle, le grand frondeur, vous connaissez sans doute cette histoire, mais ce fut aussi, à d'autres moments de sa carrière, le plus grand serviteur du Roi Soleil. Il a, dans le domaine des arts, été à la fois un émule, un concurrent du Roi Soleil, mais il a été aussi quelqu'un qui a suivi certains goûts qui avaient cours, notamment à Versailles. Donc finalement, je serai heureux de recueillir certains de vos avis à la fin de cette conférence pour répondre à cette fameuse question. Alors le Grand Condé, le voici dans un portrait peint par Juste d'Egmont, retenez ce nom, c'est un peintre hollandais qui a été actif dans l'atelier de Rubens, qui a ensuite émigré à Paris, où il est devenu quasiment le portraitiste officiel du prince. Et vous voyez justement ce prince dans toute sa splendeur, avec finalement deux aspects qui vont un peu parcourir cette conférence. D'une part, l'aspect militaire, vous le voyez, le Grand Condé, il tient le bâton de commandement de sa main droite et il se tient devant une bataille, bon, un peu mythologique, un peu imaginaire, puisque vous apercevez des éléphants, c'est les éléphants d'Hannibal, les éléphants de Carthage à l'arrière-plan. Mais ce Grand Condé, il n'est pas là en armure, il ne porte pas d'armes, mis à part son épée. Il revêt l'habit d'un prince, un prince un peu d'opérette, un prince de carrousel, un prince de théâtre. Et il se présente finalement comme un grand personnage, fier de son rang, grand mécène. Et c'est finalement ces deux aspects-là, l'aspect de mécène et l'aspect de guerrier, qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il faut aussi qu'on se penche sur la maison de Condé. Condé, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Pourquoi ce sont des personnages aussi éminents au XVIIe siècle? Alors, la seigneurie de Condé, c'est une seigneurie entre la Picardie et la Champagne. Et le premier prince de Condé, dont vous avez un portrait à l'écran, en fait, est l'oncle du futur Henri IV à la fin du XVIe siècle. On est dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on est pendant les guerres de religion, et les princes de Condé sont issus de la maison de Bourbon, donc ce sont des descendants de Saint-Louis. Donc le premier prince de Condé est le frère du père d'Henri IV. Ce premier prince de Condé va embrasser la foi protestante, la foi réformée, et pendant ces guerres de religion, les deux premiers princes de Condé vont être vraiment les leaders, les chefs du parti protestant contre le parti catholique. Et donc, vous le voyez ici, Louis Ier de Bourbon, le premier prince de Condé, qui a une vie assez courte, hein. Il est mort à l'âge de 39 ans, puisqu'il est mort à la bataille de Coutras en 1569. Son fils, Henri Ier de Bourbon, donc deuxième prince de Condé, lui aussi a suivi les traces de son père. Donc lui, c'est le cousin germain d'Henri IV, hein, vous avez suivi, et il va diriger les armées protestantes contre les armées catholiques, hein, pendant ces guerres de religion. Il va échapper au massacre de la Saint-Barthélemy, hein, avec le futur Henri IV, ils vont être protégés à la cour pendant ce massacre, et ce prince va lui aussi mourir au combat, encore plus jeune, hein, à la bataille, en 1588, à la bataille de Coutras. Hein. Le premier, c'était la bataille de Jarnac, pardon. Il laisse un orphelin in utero même, hein, son fils n'est pas né, hein, lorsqu'il est mort. Son fils, le voici, c'est Henri II de Bourbon-Condé, le troisième prince de Condé, et c'est le père du Grand Condé. On est ici à la toute fin du XVIe siècle, hein, hein, ce prince est né en 1588, et ce prince va bénéficier de la montée sur le trône d'Henri IV. Henri IV monte sur le trône en 1589, en 1590 il est couronné. Henri IV embrasse la foi catholique et donc il élève son neveu à la cour de France dans la foi catholique. Cette montée sur le trône d'Henri IV va être très importante, je vous l'ai dit, pour les princes de Condé. Pourquoi ? Parce que grâce à cela, donc c'est la maison de Bourbon qui devient la maison régnante en France, hein, vous le savez, hein, tous les Valois sont morts, donc les Bourbons montent sur le trône, et donc les Bourbons-Condé, qui sont la branche cadette des Bourbons, deviennent finalement la branche cadette de la maison régnante, et donc les Bourbons-Condé sont nommés premiers princes du sang. Premiers princes du sang, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont dans un ordre tout à fait important, dans l'ordre de succession au trône. Ça veut dire si le roi meurt et si l'héritier mâle du roi meurt, ce sont les Condés qui montent sur le trône. Et en l'occurrence, Henri II de Bourbon-Condé a été à un moment donné l'héritier du royaume, car Henri IV n'avait pas encore pour héritier Louis XIII. Et ensuite, lorsque Louis XIII est né, c'est Henri II de Bourbon-Condé qui est devenu le deuxième prétendant au trône. Donc un rôle tout à fait important, hein, qui va vraiment bénéficier à cette maison des Condés. Donc Henri IV, que fait-il pour ce prince ? Il l'élève à la cour de France dans la foi catholique, vous m'avez suivi. Surtout, il lui donne la plus belle et la plus riche héritière du royaume comme épouse, c'est Charlotte Marguerite de Montmorency. Donc vous la voyez ici portraiturée par Rubens, hein, donc une très belle princesse. On est ici vers 1610, hein, donc vers la mort du roi Henri IV au moment du mariage. Henri IV l'offre comme épouse à Henri II de Bourbon-Condé pour favoriser évidemment le premier prince du sang, mais aussi pour garder un peu cette belle et riche héritière à la cour. En fait, Henri IV était tombé amoureux de la princesse. Et donc il y a beaucoup d'histoires qui ont suivi tout cela. À vrai dire, Henri II de Bourbon-Condé était jugé un peu falot à la cour, donc le roi voulait profiter de cette situation pour garder la princesse auprès de lui. Et finalement, Henri II de Bourbon-Condé s'est ému de cette situation et il a voulu tirer son épouse des griffes du roi. Et il a entrepris un grand voyage, un grand exil avec son épouse à Bruxelles en 1610, hein, 1609-1610, qui a failli provoquer une guerre européenne. Hein. Henri IV s'est ému de cela et il a voulu déclarer la guerre aux provinces, aux Pays-Bas espagnols, hein, vous savez, là, autour de Bruxelles. Heureusement, Ravaillac arrive au bon moment et n'aura pas lieu. Voici justement la cour de Bruxelles, hein, c'est la cour des archiducs Albert et Isabelle que vous voyez ici sous le dé. Et puis alors je vais me lever comme ça vous la verrez. Ici vous voyez la princesse Charlotte Marguerite de Montmorency, hein, donc la princesse de Condé, au centre de cette cour bruxelloise, un peu le joyau de cette cour bruxelloise au moment de l'exil, hein, pour échapper aux amours d'Henri IV. Donc Ravaillac est passé par là, on revient sur cette histoire. Henri II et son épouse rentrent dans le royaume et Henri II va s'opposer à la régente Marie de Médicis. Et là, c'est aussi un fait très important pour les princes de Condé, c'est la rébellion. La rébellion chez les princes de Condé, c'est inhérent, c'est à leur famille, c'est dans leur sang. Tous les princes de Condé, les deux premiers princes de Condé se sont rebellés contre le pouvoir royal catholique. Le troisième prince de Condé, que vous voyez ici, se rebelle contre Marie de Médicis, la régente, parce que lui voulait avoir une place prééminente dans le gouvernement du royaume, contre cette régente italienne qui n'était pas jugée légitime. Et donc il va guerroyer plusieurs années contre la régence. Il va même passer 3 ans emprisonné par la régente, entre 1616 et 1619. Ce qui est assez considérable. Il va sortir là un peu calmé, vous l'imaginez bien. Il va entreprendre un grand voyage en Italie, hein, ce qui est assez tôt, hein, dans l'histoire du goût et des voyages quasiment touristiques. Il va traverser toute la péninsule. Et de retour en France, on est ici en 1620, il va comprendre que la rébellion ne marche pas et il va devenir un allié très très fidèle du cardinal de Richelieu, qui est devenu entre-temps le premier ministre du roi Louis XIII. Cette alliance avec Richelieu va être fondamentale, là aussi, pour les princes de Condé. Pourquoi ? Parce que ça va leur apporter beaucoup de charges, beaucoup de pensions, beaucoup de bénéfices qui vont asseoir leur puissance politique et financière. Cette alliance avec Richelieu va être fondamentale pour le fils d'Henri II de Bourbon-Condé, que vous voyez ici. C'est Louis II de Bourbon-Condé, le futur grand Condé, qui est né en 1621, qui va bénéficier d'une éducation extrêmement soignée par son père. Hein. Son père qui n'est pas un grand militaire, mais qui est un fin politique, un grand stratège, et qui va comprendre l'intérêt d'éduquer tout à fait de manière très poussée son fils, hein, qui était promis à des destinées glorieuses. Et donc vous le voyez dans ce petit portrait qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Il a 7-8 ans, il est justement en pleines études. Ses études se passent notamment à Bourges, là où les princes de Condé ont beaucoup de possessions, chez les jésuites de Bourges, où le prince, celui qu'on appelle encore le duc d'Enghien, il deviendra prince de Condé qu'à la mort de son père en 1646. Donc Louis, duc d'Enghien, va bénéficier d'une belle éducation aux humanités classiques chez les jésuites, puis il va bénéficier d'une seconde partie d'éducation à Paris, à l'académie de Monsieur de Benjamin, où il va apprendre l'escrime, l'équitation, la danse, enfin, comment devenir le parfait gentilhomme et un militaire patenté. L'alliance avec Richelieu, je vous le disais, était très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle a assis évidemment la puissance et la fortune des princes de Condé. Et cette alliance, elle s'est matérialisée par un mariage. C'est le mariage de Louis II, futur grand Condé, avec la nièce de Richelieu, Claire Clémence de Maillé-Brézé, dont vous voyez ici un très beau portrait en pied. Alors, contrairement à ce que vous pouvez voir, cette princesse n'était pas très jolie. Elle n'était pas très bien éduquée non plus, elle était un peu sotte. Elle n'a pas été préparée à devenir, elle, princesse de Condé. Hein. Elle est vraiment le jouet de son cardinal, de son oncle qui est le cardinal de Richelieu. Et ça va être un mariage arrangé. Cette princesse ne va jamais connaître le bonheur dans son couple. À vrai dire, on a même les lettres dans les archives du château de Chantilly. Le grand Condé va mettre des mois et des mois à consommer son mariage. On a des lettres de Richelieu, des lettres du père du grand Condé, le pressant d'aller honorer son épouse. Celle-ci va essayer de plaire à son mari. Elle va, notamment pendant la Fronde, on va y revenir, s'engager pour le parti condéen. Mais elle ne trouvera jamais grâce auprès du Grand Condé, si bien qu'en 1671, le Grand Condé va prétexter d'une rixe qui s'est passée dans la chambre de la princesse, en sa présence, entre un domestique et un serviteur, pour demander une lettre de cachet au roi, parce qu'il y avait un grand scandale, et pour pouvoir faire enfermer son épouse dans un château à Châteauroux, où elle va passer près de 20 ans enfermée, vraiment. Alors, ce n'est pas une captivité au pain sac à l'eau, hein, c'est une captivité dorée. Elle a quelques servants, elle a évidemment droit à une certaine considération, mais elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas se montrer, elle ne peut pas recevoir. Et elle va même survivre à son mari et son fils va prolonger son état de captivité. Donc c'est un destin tout à fait tragique, hein. Elle y passe près de 20 ans dans cette prison dorée. Il y a un très beau roman historique de Jean-Christian Petit-Fils qui s'appelle La transparence de l'aube, qui raconte un peu tout cela de manière romancée, mais qui est assez intéressant. Alors revenons au Grand Condé, hein. Vous voyez, c'est un esprit assez fier, hein, assez entier, fier de son rang et qui ne ménageait pas les susceptibilités des uns et des autres. La naissance du Grand Condé va vraiment se passer en 1643. 1643, c'est une date clé. Le 14 mai 1643, Louis XIII meurt, et Louis XIV n'a que 4 ans. On est en pleine guerre de 30 ans, hein, si, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du XVIIe siècle, c'est-à-dire que depuis des décennies, la France et les provinces et les puissances protestantes européennes sont face à l'Espagne et à l'Empire germanique, qui sont dirigés par les Habsbourg. Grosso modo, ce sont les Bourbons contre les Habsbourg. On est là donc en mai 1643, Louis XIII vient de mourir, Richelieu est mort lui en 1642. Donc on est dans une grande période de fragilité, Louis XIV est tout jeune, la régence se met en place, hein, c'est Anne d'Autriche et Mazarin qui vont assurer cette régence. Et donc les Espagnols vont profiter de ce moment de fragilité pour pénétrer dans le royaume, et pénétrer pas n'importe où, ils vont pénétrer par les Ardennes, hein, c'est la route directe vers Paris. Hein, vous savez que les Flandres à ce moment-là appartiennent à l'Espagne, donc c'était facile de préparer une excursion par là. Et ils mettent le siège devant la citadelle de Rocroi dans les Ardennes. Et si la citadelle de Rocroi tombe, finalement, c'est toute la route, enfin c'est tout le nord du royaume qui finalement peut tomber aux mains des Espagnols, et c'est la route de Paris qui est rendue libre. Le duc d'Enghien, futur grand Condé, lui, avait été nommé par Richelieu avant sa mort commandant des armées de Picardie. C'est son premier commandement. Il a une vingtaine d'années, même pas, il a 21 ans. Finalement, il n'a d'autre choix que de se porter au secours de la citadelle de Rocroi assiégée. Ça va vraiment être son épreuve du feu, c'est son premier commandement. Et ça va être vraiment cet événement qui va marquer sa légende. Pendant toute sa vie, on va parler de la bataille de Rocroi, à sa mort, hein, lors de l'oraison funèbre qui va être prononcée par Bossuet, le grand prédicateur, on va parler du héros de Rocroi. Et finalement, jusqu'à nos jours, ça va être vraiment la bataille qui est associée au Grand Condé. Alors vous voyez une estampe justement qui montre ça, avec un prince au premier plan tout à fait jeune, hein, comme vous voyez, qui est un adolescent. Et cette bataille, en quoi consiste-t-elle? Alors là, je vais me lever parce qu'on va faire un peu de stratégie militaire du XVIIe siècle. La citadelle de Rocroi est tout là-haut. Et vous voyez ici les troupes françaises, avec des régiments, hein, que vous apercevez, qui sont face aux troupes espagnoles. On a à peu près 26 000 Espagnols contre 20 000 Français. Les Espagnols sont invaincus jusqu'ici. Ils sont notamment composés de troupes d'infanterie qu'on appelle des tertiaux, c'est-à-dire ce sont des piquiers. Vous voyez des petits carrés là hérissés de piques. Ce sont des piquiers qui sont regroupés de manière très compacte et contre lesquels viennent se fracasser toutes les charges de cavalerie. Le coup de génie du Grand Condé durant cette bataille, hein, qui a lieu dans la nuit du 18 au 19 mai 1643, ça va être d'opérer un grand mouvement de surprise qui va prendre à revers les Espagnols. En fait, là vous voyez justement les troupes, les Français sont ici, les Espagnols sont là, la citadelle de Rocroi Et tout là-haut, là, vous voyez des taches brunes, ce sont les camps espagnols qui assiégeaient la citadelle. Et vous voyez justement le mouvement, le coup de génie du Grand Condé, le coup tactique, c'est que voyant que ses troupes ici sur la gauche sont mises en difficulté par les Espagnols, il va se mettre à la tête de la cavalerie, le Grand Condé va toujours être un brillant cavalier, et il va opérer ce mouvement de contournement que vous voyez ici, qui va prendre à revers les Espagnols par surprise, et vous les voyez, ces Espagnols, se débander vers les camps pour fuir cette fabuleuse charge. Ça va vraiment être son coup de maître. Voltaire, un siècle plus tard, va toujours parler de cette grande tactique. Napoléon va admirer le Grand Condé, notamment suite à cette bataille. Il va étudier ses tactiques. Et ça va vraiment provoquer la défaite des Espagnols, une victoire retentissante qui va sauver le royaume de France. À partir de ce moment-là, il y aura tout un arsenal de propagande, il ne faut pas avoir peur du mot, qui va se mettre en place pour honorer, valoriser la figure du Grand Condé. Tout son lignage va se mettre derrière lui, tous ses clients, tous ses fidèles, pour diffuser son image, diffuser ses faits de gloire dans tout le royaume. Et le Grand Condé va devenir vraiment un héros national. On va évidemment diffuser des représentations de cette bataille, comme vous voyez à l'écran, ces estampes du XVIIe siècle. On va même garder des reliques de ce combat. Et là, vous avez une chaise à porteur qui est maintenant au musée de l'armée, sur laquelle était assise l'ennemi du Grand Condé à Rocroi, qui s'appelait le comte de Fontaine, qui dirigeait cette infanterie des tertiaux, qui était un vieux Lorrain, très âgé, impotent, et donc qui se faisait porter sur une chaise à porteur sur le champ de bataille. Et vous voyez, cette chaise, on pouvait glisser des brancards par les attaches métalliques de part et d'autre. Et le comte de Fontaine est mort sur cette chaise à Rocroi, et donc cette chaise a été conservée comme une relique de cette fameuse bataille, elle a été même offerte au Grand Condé, et elle se trouvait au château de Chantilly jusqu'à la Révolution, date à laquelle elle était confisquée. Autre relique fameuse de ce combat, c'est ce drapeau, qui fait partie des collections du musée Condé à Chantilly, qui est le plus ancien drapeau conservé en France. C'est un drapeau qui fait plus de 2,60 mètres d'envergure, qui est considérable, sur plus d'1,50 mètre, qui est un drapeau en soie peinte, extrêmement précieux. Et pourquoi c'est plus ancien? Parce qu'en fait, tous les drapeaux d'Ancien Régime étaient conservés aux Invalides, vous le savez. On les portait d'abord à Notre-Dame de Paris, ensuite ils étaient conservés aux Invalides. Mais en 1814, le maréchal Serrurier, qui était le gouverneur des Invalides, a décidé qu'on les brûlerait tous pour éviter qu'ils tombent aux mains des ennemis. On est là dans les 100 jours, dans les derniers jours du règne de Napoléon Ier. Donc pour éviter que tous ces drapeaux d'Ancien Régime tombent dans les mains de l'ennemi, on a décidé de les brûler aux Invalides. Celui-ci faisait partie des collections des princes de Condé à Chantilly, donc il a échappé à ce bûcher, et donc on conserve finalement pieusement comme une relique. Vous voyez, ce sont des armoiries assez précises qui sont ici dépeintes. C'est l'aigle du Saint-Empire germanique, qui est l'Empire Habsbourg, avec au centre une pomme de pin, et en fait c'est la ville d'Augsbourg qui avait pour armoirie la pomme de pin. Et on sait qu'il y avait beaucoup de régiments allemands à Rocroi contre Condé, donc ce drapeau, qui est un grand drapeau au XVIIe siècle, a bel et bien été pris à cette bataille. Donc je vous le disais, beaucoup de représentations du prince devant son suite à ce combat. Et là vous voyez justement l'une de ses premières représentations. Vous voyez le Grand Condé en habit de général romain, tout à fait là aussi fantasmé, mais qui désigne justement derrière le champ de bataille où vous observez les bataillons, les régiments qu'on a vus tout à l'heure. C'est un très grand tableau qui est peint par Juste d'Egmont, justement ce portraitiste qui deviendra le portraitiste officiel du prince de Condé. C'est un tableau très important qui a été commandé par la mère du Grand Condé, Charlotte Marguerite de Montmorency, la très belle princesse qu'on a vue tout à l'heure, et qui l'a commandé donc 2 ans après Rocroi, en 1645, pour faire figurer au château de Chantilly. Après Rocroi, on va assister à un chapelet de victoires dans cette guerre de 30 ans qui n'en finit pas. Chaque année, une nouvelle campagne. Chaque année, le Grand Condé le duc d'Enghien, qui devient Grand Condé en 1656, va remporter des victoires contre les Habsbourg. Ici, on est en 1644, à Fribourg en bas, Philippsbourg en haut. Ici, en 1645, à Nördlingen, toujours en Allemagne, toujours contre les Habsbourg. Ici, en 1646, à Dunkerque, vous avez ici un tableau de la Galerie des batailles de Chantilly, sur laquelle on va revenir, parce que c'est une histoire intéressante, mais vous voyez justement le port de Dunkerque derrière. C'est vraiment le plus grand militaire du XVIIe siècle, le Grand Condé, avec le maréchal de Turenne, c'est un nom qui doit vous parler également. Il est doué à la fois dans les sièges, mais aussi dans les batailles rangées. Et finalement, il devient invaincu à ce moment-là. Ici, c'est la bataille de Lens en 1648, qui va être la dernière bataille qui va précéder la Fronde. Donc ces portraits, là je vous ai mis un autre portrait qui est conservé à l'abbaye de Chaly en Picardie, où vous voyez ce jeune prince toujours en habit général romain, devant une évocation d'une bataille. Ce qui est important, c'est que le Grand Condé, c'est le héros d'une époque en quête de héros. Alors je vais expliquer un peu cette expression. En fait, Louis XIII est mort, Louis XIV est trop jeune, et on est dans cette période baroque, cette période des précieuses, cette période du théâtre de Corneille, du site de Corneille par exemple, où on aime avoir des héros, avoir des figures héroïques. Et finalement, évidemment, le Grand Condé a toutes les qualités, c'est un prince, il est jeune, il est puissant, il est victorieux, mais c'est aussi, il arrive au bon moment, en quelque sorte. Finalement, il n'y a personne d'autre qui peut remplir ce rôle de héros. Et là, vous voyez justement, alors pardon pour la mauvaise photographie, mais vous le voyez dans un habit tout à fait théâtral, avec des nattes, qui n'est pas vraiment une tenue militaire, mais qui est vraiment ces représentations baroques des années 1640, d'avant la Fronde. Autre représentation, on sait ici un grand tableau qui est au musée de l'armée à Paris. Et vous le voyez justement, on commémore la bataille de Dunkerque en 1646. Vous apercevez la mer, le port derrière le prince. Vous avez le Grand Condé couronné par la fortune. Et le Grand Condé, il est représenté ici comme le nouvel Hercule. Autour du cou, vous discernez des pattes de lion. En fait, c'est la peau du lion de Némée. Qui est un attribut d'Hercule qu'il revêt là. Donc finalement, le Grand Condé, à ce moment-là, c'est le nouveau César, nouvel Alexandre, nouvel Hannibal, nouvel Hercule. On le compare à tous ces héros. Et on compose à la fois des pièces de théâtre, des chroniques, mais aussi des grandes peintures, tout à fait allégoriques en son honneur. Là, vous voyez, évidemment, la fortune qui couronne le héros militaire, mais au premier plan, vous avez les arts libéraux, la géographie, la géométrie et la musique qui rendent hommage à ce prince qui est à la fois un prince militaire, mais aussi un prince savant, un prince lettré. Le Grand Condé est aussi, à ce moment-là, honoré dans plusieurs villes du royaume, et notamment à Dijon. Alors, pourquoi Dijon ? En fait, Dijon, c'est évidemment la capitale de la Bourgogne, et la Bourgogne, c'est le gouvernement des princes de Condé. Vous savez que tout grand noble au XVIIe siècle doit avoir un gouvernement. Un gouvernement, c'est comme un fief. Ça permet d'avoir des pouvoirs militaires, politiques étendus, et ça permet aussi d'avoir tout un réseau de clientèle qui permet aussi, quand on se révolte contre le roi, d'avoir des provinces qui se révoltent avec soi. Et donc, Dijon honore le Grand Condé. Et là, vous avez un manuscrit tout à fait inédit qui vient de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, qui montre des dessins pour des arcs de triomphe, des arcs de triomphe qui étaient éphémères, qui étaient en carton-pâte, en plâtre, dressés pour la grande entrée du Grand Condé à Dijon en 1648. Des choses très allégoriques. Vous avez ici Neptune, parce que là, on commémore justement la bataille de Dunkerque. Neptune, à gauche, vous retrouvez le trident de ce dieu. Vous avez la ville de Dijon avec les clés en bas à droite également. Autre tableau allégorique, lui aussi totalement inédit. Un tableau, là aussi bourguignon, qui commémore évidemment la bataille de Rocroi. Enfin, évidemment, c'est pas si évident parce que c'est grâce à l'exposition qu'on a découvert là. Vous voyez le jeune Louis XIV sous un dé, au pied duquel sont agenouillées des nations. Et puis, juste à sa gauche, vous voyez le jeune prince de Condé qui protège militairement son cousin. Alors, on en vient à la Fronde. La Fronde, c'est vraiment le moment clé de l'histoire de France qui est lié au Grand Condé. C'est une histoire compliquée dont vous avez sans doute plusieurs souvenirs, ou vous avez lu beaucoup de choses là-dessus. La Fronde, évidemment, c'est une rébellion, non pas contre Louis XIV, hein, c'est un peu simplifié de dire que c'est une rébellion contre Louis XIV. Les frondeurs ne se rebellent jamais directement, frontalement, contre le roi. On se rebelle contre Mazarin, le Premier ministre, et contre sa politique. Mazarin avait augmenté les impôts à cause de la guerre de 30 ans, pour financer les combats. Mazarin avait aussi voulu abaisser le pouvoir des parlementaires à Paris, des grands officiers. Et il avait aussi confisqué un certain nombre de bénéfices, de pensions, pour se les octroyer à lui-même. Et ces pensions, évidemment, elles manquaient un certain nombre de nobles. Il faut comprendre un peu le système de pensions, de bénéfices d'Ancien Régime. Pour parler un peu schématiquement, j'ai l'habitude de dire que c'est comme un gâteau, mais un gâteau qui n'est pas expansible. Vous avez une quinzaine de gouvernements, vous n'en avez pas 20, vous n'en avez 15, pas 16. Vous avez un certain nombre de bénéfices, mais qui ne peuvent pas être extensibles. Et donc, quand tous ces bénéfices sont répartis entre les grands nobles, les condés, les Conti, les Orléans, etc. Mais quand il y a un nouveau personnage très important qui arrive, comme un Italien, comme Mazarin, donc qui vient de l'extérieur, qui n'a pas de tradition familiale, c'est-à-dire que sa famille n'avait pas de bénéfices français avant ça. Et donc il arrive sur ce gâteau, il faut lui laisser une part. Et donc pour en laisser une part, évidemment, le gâteau il n'est pas extensible, il faut en enlever à certains. Et donc, on enlève certaines pensions, certains bénéfices à certains nobles pour les donner à Mazarin. Enfin, c'est Mazarin qui les enlève à des nobles pour se les donner à lui-même. Et évidemment, ça provoque des mécontentements. Alors, la première fronde commence en 1648. C'est une fronde, la fronde dite parlementaire. C'est le peuple de Paris, le Parlement de Paris et certains nobles qui se rebellent contre Mazarin et donc contre Anne d'Autriche et Louis XIV. Le Grand Condé n'est pas du tout rebelle, n'est pas du tout frondeur au début de la Fronde. Pourquoi ? Parce que c'est le premier prince du sang, c'est le grand général qu'on vient de voir, il a toutes les récompenses qu'il souhaite, et donc il n'a aucun intérêt, lui, à être frondeur, parce que c'est le premier personnage au Conseil du Roi, il n'a rien à gagner. Par contre, son frère, dont vous avez ici un beau portrait dans un médaillon conservé à Chantilly, le prince de Conti, lui, il estime qu'il n'est pas récompensé à sa juste valeur. Donc, il va prendre parti à la Fronde. Il va devenir un éminent frondeur. C'est le cas aussi de la sœur du Grand Condé, la duchesse de Longueville, qu'on va appeler l'Amazone de la Fronde, qui va vraiment... On est dans cette période baroque où les princesses vont prendre les armes, n'ont pas froid aux yeux. Et donc, vous la voyez ici, là aussi. Donc, c'est pas un portrait très grande qualité. Malheureusement, on a très peu de portraits d'elle. Mais c'est une femme tout à fait... captivante, un peu un grand Condé au féminin qui va elle aussi prendre les armes. Le Grand Condé au début de la Fronde, on est ici en 1649, il va donc pas du tout être frondeur, au contraire il va être utilisé par Mazarin pour être le bras armé de Louis XIV contre les frondeurs et vous voyez justement ici un grand tableau qui est dans la galerie des batailles de Chantilly. Vous apercevez Paris à l'arrière-plan, vous apercevez les méandres de la Seine, et vous avez au premier plan l'armée du prince de Condé qui fait le blocus de Paris, le Paris qui était aux mains des frondeurs. Ça va marcher en 1649, une première paix est déclarée. Et Condé va, dès ce moment-là, se méfier beaucoup de Mazarin, qui prend de plus en plus de pouvoir. Condé n'obtiendra pas toutes les récompenses qu'il souhaite, notamment suite à tous ces épisodes où il a vraiment servi et sauvé en quelque sorte la monarchie. Il va devenir menaçant vis-à-vis de Mazarin et de la régente. parce qu'il estime qu'il n'est pas récompensé à sa juste valeur. Et si bien que cette menace va être prise au sérieux et Mazarin et la régente Anne d'Autriche vont ordonner la captivité, l'emprisonnement de Condé, qui va passer plus d'un an à Vincennes, dans le château de Vincennes, en prison, avec son frère et son beau-frère. Parce qu'il était devenu trop menaçant, c'est qu'il est un personnage trop inquiétant. Pendant qu'il est en prison, on est ici entre 1650 et 1651, le parti condéen va se mettre en fronde, le parti condéen va se préparer, soulever des provinces, ça va être le cas un peu de la Bourgogne, du Berry, mais aussi de la Guyenne, beaucoup, donc ici à Bordeaux, qui va vraiment être la province la plus condéenne du royaume, qui va vraiment soutenir cette fronde, qui va devenir la fronde, cette fois-ci, condéenne. La pression va être telle que Mazarin va devoir s'exiler et faire libérer les princes en 1651. Évidemment, le grand Condé sort de prison et là, la confiance est rompue. Il prend vraiment la tête de la fronde, de tous ces combats. Il va des combats qui vont parsemer un peu le royaume, des combats tout à fait incertains. Hein. Personne ne prend vraiment l'avantage sur un autre camp. Et là, vous avez à l'écran une représentation du principal combat de cette fronde condéenne. On est en 1652. On est là aux portes de Paris. Vous avez reconnu la Bastille à l'arrière-plan. On est ici au combat du Faubourg Saint-Antoine. Le grand Condé fait face aux armées royales dirigées par Turenne. Le grand Condé et son parti sont mis en difficulté et c'est la grande mademoiselle, qui est peut-être un personnage qui vous dit quelque chose, qui va sauver le grand Condé parce que la grande mademoiselle est à Paris. Elle est même sur les toits de la Bastille avec le gouverneur de la Bastille et elle ordonne au gouverneur de la Bastille de faire tirer du canon contre les troupes du roi, son cousin, pour sauver Condé. Et elle fait ouvrir les portes de Paris à Condé, ce qui va le sauver. Donc ça va être un épisode tout à fait rocambolesque hein, qui a bel et bien existé. La grande mademoiselle qui est aussi une amazone de la fronde, elle aussi, hein, la grande mademoiselle c'est aussi la cousine de Louis XIV, tout comme Condé. C'est la fille de l'oncle de Louis XIV. Hein. C'est elle aussi une sorte de grand Condé au féminin, extrêmement riche, extrêmement fier de son rang et qui n'hésite pas à passer d'un parti à l'autre, à devenir rebelle, etc. Donc elle sauve Condé. Condé se réfugie à Paris, hein, échappe à la défaite face à Turenne. Mais Condé se rend compte que son parti ne vaincra pas, qu'il est trop faible. Et il va se résoudre à la dernière extrémité, c'est de mettre son épée au service de l'ennemi de toujours, de Philippe IV de Habsbourg, du roi d'Espagne. Ça va être un choc total. Le premier prince du sang qui part à l'étranger en exil, à Bruxelles, hein, notamment dans les Pays-Bas espagnols, pour combattre aux côtés de Philippe IV de Habsbourg contre les Français. Hein, il faut s'imaginer, hein, c'est l'héritier du trône quasiment qui combat la France. Ça va être un choc total. Le grand Condé va être condamné à mort en France. Hein, il va être condamné à mort, notamment en 1654, par le Parlement de Paris. Tous ses biens vont être confisqués, notamment Chantilly. On va parler évidemment de Chantilly ensuite. Et pendant 5 ans, de 1654 à 1659, il va combattre pour les Espagnols. Et vous le voyez ici dans ce petit portrait sur cuivre, il se fait représenter comme généralissime des armées espagnoles. Donc il revendique cette nouvelle position. Il a un rôle très important à l'égard des armées espagnoles et il combat les Français, il combat Turenne, il combat Louis XIV. Il est à Bruxelles pendant toutes ces années. Il a une grande vie militaire, je vous le disais. Et à Bruxelles, ça va être aussi un moment très important parce qu'il va, à ce moment-là, comprendre l'intérêt d'avoir une collection. Je m'explique, il va visiter des ateliers d'artistes, il va côtoyer de grands princes, il va visiter de grandes galeries. Là, vous avez ici un très beau tableau qui est aujourd'hui au Prado, où vous voyez l'archiduc Léopold Guillaume hein, au centre, qui est un parent du roi d'Espagne, à Habsbourg, hein, qui dirigeait les Pays-Bas espagnols, qui est un immense collectionneur. Et vous le voyez, cet archiduc, dans sa galerie de peinture. Et le Grand Condé va côtoyer tout ce monde-là, il va visiter tout cela, et ça va lui donner des idées, si bien qu'il va, dès ce moment-là, hein, lorsqu'il est au service du roi d'Espagne, il va se mettre à collectionner des peintures flamandes, notamment. Et vous avez ici deux Van Dyck, qui sont toujours dans les collections du musée Condé à Chantilly, qui ont été acquis par le Grand Condé lorsqu'il était au service du roi d'Espagne. Et il a ensuite rapporté ces très beaux tableaux en France. Donc, vous le voici justement là, c'est un autre portrait commandé à ce moment-là par Juste d'Egmont. Hein, ces portraits qu'on a vus tout au début, c'est dans ces années-là qu'il est commandé. Il va subir, cela a dit, à la tête des Espagnols, une très lourde défaite. C'est elle a lieu en 1658, c'est la bataille des Dunes, donc c'est à l'est de Dunkerque. Les Espagnols vont être écrasés par Turenne et les Français. Et cette bataille va provoquer le traité des Pyrénées de 1659. C'est un traité qui est passé à la postérité. Pourquoi ? Parce que c'est le traité qui va déclarer la paix entre la France et l'Espagne, qui va vraiment marquer la fin ultime de la guerre de 30 ans. Et c'est surtout le traité de paix qui va permettre le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Ça a été un traité de paix européen très important que Mazarin va négocier. Et sur ce traité de paix qui comporte 124 articles, 9 articles concernent le Grand Condé, ce qui est assez considérable pour un traité de paix européen. Que disent ces articles ? Ils disent que, en échange de la soumission pleine et entière du Grand Condé à Louis XIV, celui-ci pourra rentrer en France, il sera pardonné par le roi et il pourra récupérer tous ses biens et tous ses titres, ce qui est quand même pas mal joué pour le prince. Il faut dire que évidemment Louis XIV n'avait pas le choix. Le Grand Condé est un prince d'envergure européenne. Il a un rôle trop imposant. Il vaut mieux l'avoir à ses côtés que contre soi. Et donc finalement, il n'avait pas le choix. Et puis le Grand Condé, le prince de Condé, c'est son propre sang pour Louis XIV. C'est le premier prince du sang, donc il ne peut pas le condamner à mort. Il ne peut pas le condamner à l'exil, il n'a d'autre choix finalement que de le récupérer à son service. Le Grand Condé rentre en France, on est en 1660, il va rentrer à Chantilly, où il va un peu se faire oublier évidemment, il va connaître une certaine disgrâce. Et là, vous le voyez ici dans cette très belle peinture qui fait partie du cycle de la Galerie des batailles de Chantilly, qui a été commandé à la fin de la vie du Grand Condé et par son fils, qui va être achevé par son fils. Et vous le voyez justement, le Grand Condé, ce tableau s'appelle le repentir du Grand Condé. Donc le Grand Condé se repent de la fronde et se repent de sa trahison au service du roi d'Espagne. En fait, il demande, là aussi je vais me lever, ça sera plus simple. Vous avez en haut ici la fortune qui était prête à chanter les louanges des combats du Grand Condé remportés contre Louis XIV. Il lui demande de se taire, également à celle-ci, lui confisque sa trompette et il demande à la muse de l'histoire d'arracher les pages qui racontent les exploits qu'il avait remportés pendant la fronde et au service du roi d'Espagne. De même, il écrase de son pied des banderoles qui comportent les noms des batailles qu'il avait remportées contre le roi. Mais, alors, évidemment, c'est une mise en scène où il se repent, mais ce qui est drôle, c'est que ces feuilles d'histoire et ces batailles, on arrive à les lire quand on est à Chantilly. C'est-à-dire que là, vous lisez les exploits du Grand Condé pendant la fronde et au service du roi d'Espagne, tout comme les noms le nom des batailles, vous arrivez également à les lire. Donc c'est un repentir qui n'en est pas un, ou c'est un repentir de façade, ou alors c'est à la fois un repentir, mais on se glorifie quand même de cette période tout à fait importante. Donc c'est assez intéressant dans manière d'allégorie, de message politique pour cette commande qui est très familiale. C'est un tableau qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'à Chantilly parce que c'est un peu... ce n'est pas politiquement correct, pour prendre un terme contemporain. La rentrée en grâce au service du roi Soleil va être très progressive. La première étape, ça va être son entrée dans l'ordre du Saint-Esprit dont vous avez ici une représentation. Vous avez ici une gravure par Nanteuil, qui est le grand graveur du siècle de Louis XIV, où on voit le grand Condé arborant ce collier de l'ordre du Saint-Esprit avec la fameuse colombe. Hein. On est en 1661, donc c'est finalement la première preuve que le grand Condé rentre peu à peu dans les grâces du roi Soleil. La deuxième étape, ça va être 1662, le grand carrousel des Tuileries. Ça va être le grand moment où Louis XIV va montrer à tout le monde qu'il a domestiqué la noblesse après la Fronde. Et donc, il va organiser ce grand spectacle où tous les nobles vont devoir participer à ce carrousel qui est une sorte de joute moderne. C'est une joute où on se bat pas, hein. C'est une sorte de ballet équestre en quelque sorte, avec des jeux de bagues, etc. Et chaque noble important, hein, dirigeait une équipe costumée en l'honneur d'un continent. Et vous voyez ici, le grand Condé était empereur des Turcs, et vous le voyez totalement costumé d'une manière très tout à fait admirable dans ce dessin qui est tracé par Jean Bérin, qui est un grand décorateur du siècle de Louis XIV. Vous le voyez justement en empereur des Turcs en 1662. Autre représentation de ce carrousel de 1662, vous voyez, donc ça c'est une page d'Almanach, hein, qui est le calendrier des postes du XVIIe siècle, avec justement le calendrier ici. Vous avez le carrousel là, et puis une vue des principaux acteurs, donc Louis XIV au premier plan évidemment, et puis derrière tous les grands princes. Donc vous avez ici le grand Condé en empereur des Turcs, et puis là vous avez le fils du grand Condé, Henri Jules de Bourbon-Condé, qui était chef des Amérindiens. La rentrée en grâce définitive du grand Condé va se dérouler en 1667. En 1667 va avoir lieu un événement majeur, c'est la mort du roi d'Espagne, Philippe IV de Habsbourg. Et Louis XIV va réclamer la dot de son épouse, l'infante Marie-Thérèse, parce qu'il n'avait pas reçu. Hein. Et donc, il va la réclamer en envahissant la Franche-Comté qui appartenait aux Espagnols. Et donc, ça va être la première guerre personnelle du siècle de Louis XIV. Et à ce moment-là, Louis XIV va demander au Grand Condé de combattre pour lui. Ça va être le retour sur la champ de bataille du Grand Condé, mais cette fois-ci comme serviteur de Louis XIV. Louis XIV ne pouvait pas se passer de l'épée du génie militaire de son cousin, hein, et donc il valait mieux l'utiliser. Vous voyez ici, ça va être une campagne éclair, hein, en 1667-1668, qui va durer 3 semaines. On est pendant l'hiver, hein. Vous voyez ici ce tableau qui représente un siège, c'est le siège de Dole, justement en Franche-Comté. Vous avez Louis XIV en bleu, avec la cape bleue au second plan, avec le grand Condé juste à ses côtés. Ce qui va changer dorénavant dans toutes ces représentations de bataille, c'est que le grand Condé n'a plus le premier rôle. Le nouvel Alexandre, le nouvel Hercule, le nouvel Hannibal, c'est plus le grand Condé, c'est Louis XIV. Les codes de représentation sont confisqués par Louis XIV. Et donc dans ces peintures de bataille, maintenant, c'est Louis XIV qu'on voit d'abord et le Grand Condé après. Alors que si ça avait été peint avant la Fronde, eh ben, on aurait mis le Grand Condé comme héros, vous l'imaginez bien. Deuxième combat, donc là c'est la bataille de la Franche-Comté, Dole et Besançon. Deuxième combat, ça va être deuxième campagne, hein, menée pour Louis XIV par le Grand Condé, ça va être la guerre de Hollande en 1672. Qui va être une guerre menée par Louis XIV et Colbert pour un peu rabaisser la puissance des Provinces-Unies, hein, c'est-à-dire la Hollande actuelle, qui était un pays très marchand, un pays protestant, donc ça avait vraiment l'heure de déplaire à Louis XIV et à Colbert. Mais pour envahir la Hollande, il faut passer le Rhin. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de pont, vous imaginez bien. Et faire passer le Rhin à une armée, c'est toute une histoire. Soit on construit un pont de bateau, ce qui prend des semaines, ce qui est très long, et donc l'effet de surprise est annihilé, vous l'imaginez bien. Soit on trouve un gué, ce qui a été le cas ici, et le grand Condé qui dirigeait la cavalerie à ce moment-là a trouvé un gué à Tolhuis, donc à la frontière hollandaise. Et vous voyez justement dans ce grand tableau qui est aujourd'hui à Chantilly, vous voyez cette armée française traverser à dos de cheval le Rhin, ce qui va être un prodige. Hein. Madame de Sévigné va en parler à moult reprises comme l'exploit du siècle. Il y aura là aussi beaucoup de représentations peintes de ce passage du Rhin, notamment à Versailles, dans la Galerie des Glaces, justement. Et là, vous voyez, on est à Chantilly et le personnage principal, ce n'est pas le Grand Condé, mais c'est Louis XIV que vous voyez là. Et le Grand Condé, on le voit ici, mais on le voit de dos. Donc là aussi, les codes sont confisqués au profit de Louis XIV. Autre représentation tout à fait importante de ce combat, c'est donc le passage du Rhin. Là, vous voyez le Grand Condé qui dirige la cavalerie. C'est une pièce très intéressante qui est conservée au Mobilier National, qui n'est pas une tapisserie, contrairement à ce que vous pouvez deviner. En fait, c'est une soie peinte, ce qui est tout à fait rare, tout à fait précieux à cette époque-là. C'est une technique italienne, hein, on appelait ça une technique au jus d'herbe, qui a été importée depuis Rome directement. Pourquoi au jus d'herbe? En fait, dans la préparation picturale, on injectait un liant à base de plantes qui faisait que cette peinture pénétrait la soie. Et de ce fait, on pouvait rouler la soie sans qu'il y ait de couche de peinture qui aurait été friable. Vous comprenez ? Tout avait bien pénétré le support. Et donc, on a là quelque chose qui est évidemment beaucoup plus rapide à effectuer qu'une tapisserie. Hein, parce que tisser une tapisserie, ça prend des mois et des mois. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est beaucoup plus compliqué techniquement. Et là, vous voyez justement le Grand Condé en majesté dirigeant les armées. Alors là, vous allez me dire, mais attendez, Louis XIV, où est-il ? En fait, c'était une série avec trois pièces. Là, on a la pièce de gauche avec le Grand Condé, la pièce centrale, évidemment, représentée Louis XIV. Dernier combat mené par Condé, c'est dans cette guerre de Hollande en 1674. C'est le combat de Senef. Et là, vous avez justement une gravure allemande où vous ne comprenez rien, c'est normal. Enfin, c'est très, très illisible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une boucherie, ce combat. Ça a été très, très indécis. Il y a eu plus de 15 000 morts de part et d'autre, ce qui est considérable pour le XVIIe siècle. Hein. Il faut savoir en fait que le Grand Condé n'a jamais vraiment épargné la vie humaine. Il a une façon de faire la guerre tout à fait archaïque. Où il charge lui-même au combat. Il a trois chevaux qui sont tués sous lui à Senef. Lui-même n'épargne pas sa propre vie. Il charge au combat, il pousse ses hommes. Et dans ce combat indécis, en fait, les Hollandais sont les premiers à se retirer. Et donc, il remporte les lauriers de cette victoire. Une victoire chèrement acquise, hein, qui fait dire à Madame de Sévigné que si on n'avait pas vu tous les drapeaux pris à l'ennemi et si on n'avait pas entendu le Te Deum chanté à Notre-Dame de Paris, on aurait cru qu'on avait perdu tellement les pertes ont été effroyables. Le Grand Condé, quand même, va récolter les lauriers de cette victoire et ça va être vraiment son dernier combat. Il est vraiment en décalage avec la façon de faire la guerre à ce moment-là. La guerre, dans les années 1670, devient beaucoup plus une guerre d'ingénieurs, une guerre de cabinet, une guerre de Vauban, de Louvois, les guerres de Louis XIV. Le Grand Condé, c'est un homme de la première moitié du XVIIe siècle en termes militaires. Et il n'est plus vraiment au fait de tout cela. Et il est aussi âgé, il est très malade, il a la goutte depuis des années. Et donc, il se retire au fait de sa gloire. Il se retire notamment à Chantilly. Vous le voyez justement dans cette autre page d'Almanach. En haut, vous avez le buste de Louis XIV avec de part et d'autre les deux grands guerriers de son siècle. À droite, Turenne. Et à gauche, vous le reconnaissez à son profil assez émacié, hein, le Grand Condé. Justement, voilà, les deux autres, les deux généraux principaux, avec ces portraits en pied qui font penser l'un et l'autre l'un à l'autre. Hein, on a ici une émulation, là aussi, entre Condé et Turenne. Donc, Condé à droite et Turenne à gauche. Alors, le Grand Condé se retire sur ses terres, notamment à Chantilly. Il faut savoir que, au milieu du XVIIe siècle, Chantilly n'a pas la place qu'on lui connaît au sein de la maison de Condé. En fait, la principale résidence des princes de Condé au milieu du XVIIe siècle, c'est l'hôtel de Condé à Paris, qui n'existe plus, hein, qui est maintenant sous le théâtre de l'Odéon, hein, pour ceux qui connaissent Paris, hein, c'est dans le 6e arrondissement. C'est l'hôtel de Condé à Paris qui est le centre névralgique de la maison de Condé, c'est leur principale demeure. Justement, le grand Condé va y résider, notamment dans les années 1640, hein, avant, pendant la Fronde, et ensuite à son retour en France, en partie. Il va commander des jardins à André Lenôtre, là, dans cette résidence. Et vous avez ici, dans cette gravure, justement, ses parterres à la française, avec ses buis tout à fait dessinés. Là, vous avez une vue de la cour, justement, de cet hôtel de Condé. Et puis Chantilly. Alors Chantilly, j'en ai parlé sans en parler jusqu'ici. Chantilly, c'est un château au nord de Paris que vous connaissez sans doute, à 50 km de Paris, qui appartenait aux Montmorency depuis le XVIe siècle, enfin depuis la fin du XVe siècle même. La dernière héritière des Montmorency, c'est la mère du grand Condé, Charlotte Marguerite, hein, la belle princesse qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, dans son escarcelle, finalement, elle va récupérer Chantilly. Et en fait, c'est le roi qui va lui rendre Chantilly, notamment à la faveur de la bataille de Rocroi. En récompense de la bataille de Rocroi en 1643, Chantilly va être rendu à la dernière héritière de Montmorency, parce que le dernier héritier mâle avait été décapité même par le roi en 1632. Donc la dernière héritière des Montmorency récupère Chantilly en 1643 à la faveur finalement de la victoire de son fils. Et le transmet au Condé. Et à ce moment-là, Chantilly va être irrémédiablement lié au prince de Condé jusqu'en 1830, date de la mort du dernier prince de Condé. Chantilly va être vraiment important à partir du Grand Condé. Pourquoi ? Parce que c'est le Grand Condé qui va en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein, comme on l'a annoncé pour cette conférence. C'est-à-dire qu'il va complètement le transformer, et c'est le Grand Condé qui va transférer le centre de gravité de la maison de Condé depuis Paris jusqu'à Chantilly. Tout comme le roi avait quitté Paris pour Versailles, le Grand Condé a quitté Paris pour Chantilly. Vous comprenez un peu cette dialectique. Alors Chantilly, à l'époque du Grand Condé, ça ressemble à ça, c'est-à-dire un château tout à fait médiéval. Pour vous expliquer, donc c'est un château qui a un peu changé de nos jours. Chantilly est composé de deux châteaux. Vous avez le grand château médiéval du XVe siècle, ici, et puis le petit château, le château Montmorency du XVIe siècle, qui est accolé au grand château. Le château médiéval a été aménagé au XVIe siècle, il va l'être aussi au XVIIe siècle par le fils du grand Condé. Ensuite, toujours au XVIIIe siècle, mais il m'a toujours conservé cet aspect très, très médiéval, avec ses hautes courtines, ses grandes tours, etc. Il va être rasé à la Révolution, et c'est le duc d'Aumale, à la fin du XIXe siècle, qui va le reconstruire. Par contre, le petit château, lui, est toujours conservé, toujours de nos jours, et va faire l'objet de beaucoup de soins du Grand Condé à la fin de sa vie. Pourquoi à la fin de sa vie ? Parce que le Grand Condé va commencer par les jardins. On est dans les années 1660. En 1662, il va faire appel à André Lenôtre. Et la première tâche d'André Lenôtre, ça va être de composer cette grande parterre, ce grand parterre dit de l'orangerie, parce que Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de Versailles, va construire parallèlement l'orangerie que vous apercevez ici. Et c'est pour ça que vous avez tous ces arbustes ici. Donc ça va être la première étape du grand projet d'André Lenôtre à Chantilly. Deuxième étape, ça va être les grands parterres qui sont toujours conservés. Ces grands parterres à la française avec le grand canal qui est plus long que celui de Versailles. Et on va être constamment dans une émulation, une rivalité, notamment avec Versailles. Ça va être les mêmes artistes, André Lenôtre, Jules Hardouin-Mansart, Charles Lebrun, qui vont travailler pour les deux princes, pour le prince et le roi, pardon. Et on va être dans une recherche du gigantisme, une recherche de l'excellence de part et d'autre. Vous avez ici le grand parterre à la française, et on va parler rapidement, vous connaissez ce que c'est un jardin à la française, évidemment c'est un jardin orthonormé, un orthogonal, vous avez tous ces parterres, c'est un jardin qui fait largement appel à l'eau, et ce qui est intéressant à Chantilly, c'est que contrairement à Versailles, on n'a jamais manqué d'eau à Chantilly. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le grand canal emprunte finalement le cours d'une rivière, la Nonette, qui est une qui est un affluent de l'Oise. Et donc il y a toujours de l'eau à Chantilly, c'est un peu le miracle des eaux, et le Grand Condé va même faire appel à un hydraulicien, Jacques de Mans, qui va construire tout un appareil hydraulique pour alimenter tous ces jets d'eau, toutes ces fontaines. Une machine hydraulique qui va beaucoup intéresser Louis XIV, qui va s'empresser de venir à Chantilly pour comprendre comment tout ça fonctionne, pour pouvoir éventuellement l'importer à Versailles. Le jardin à la française, dernier point, c'est aussi un jardin surtout de théâtre. Un jardin où on donne de grandes fêtes, on va y revenir, on donne des pièces de théâtre, c'est aussi un jardin où on ménage des effets théâtraux, c'est-à-dire qu'on... Cette grande cascade ici qui a disparu malheureusement suite à la Révolution, en fait on ne l'aperçoit pas de loin, c'est-à-dire que c'est au détour d'un bosquet, au détour d'une allée qu'on tombe face à cette gigantesque cascade qui n'est pas sans faire penser celle de Saint-Cloud hein, qui est toujours conservée. Le génie d'André Le Nôtre, ça va être voilà, de créer tout cela. Et là, pour comprendre un peu la spécificité de Chantilly, qui va être... Le jardin préféré d'André Le Nôtre, ce n'est pas nous à Chantilly qui disons, même si on reprend largement cette citation, c'est André Le Nôtre lui-même, à la fin de sa vie, qui va le dire dans une lettre à l'ambassadeur de Versailles. Il va dire « Souvenez-vous de Versailles, de Fontainebleau, des Tuileries, donc de tous ces jardins créés par André Le Nôtre, mais souvenez-vous surtout de Chantilly. » Ça va être son jardin préféré. Pourquoi ? Parce que ça va être le principal défi de ce grand jardinier qui va créer... Un parti tout à fait original. En fait, il va quadriller toute la forêt aux alentours, hein, parce qu'évidemment, Chantilly, c'est un domaine forestier. Et surtout, il va tirer parti de ce château très médiéval, très biscornu, triangulaire dans son plan, un château qui n'est pas du tout classique. Il va le laisser de côté et il va tracer sa perspective, que vous voyez ici, monter de la forêt... puis monter tout doucement vers une terrasse qui se trouve là et qui va aboutir jusque dans les parterres et le grand canal, cette perspective, ce grand axe, ne passe pas par le château. Et ça, c'est tout à fait original. Hein. Vous savez qu'à Versailles, notamment, il passe par le château. Ici, ce n'est pas le cas. Il va ménager une douce montée jusqu'à la terrasse qui va là pouvoir installer un effet de surprise, c'est-à-dire que ce n'est qu'une fois en haut de la terrasse que les visiteurs aperçoivent les grands parterres et le grand canal. Et puis tout ce que vous voyez ici, ce sont tous les bosquets, les parterres mis en place par André Le Nôtre qui sont en partie détruits parce que maintenant toute la ville de Chantilly se trouve ici. Hein, tout ça a été loti à la Révolution, vous l'imaginez bien. Vous voyez justement ce parti là en plan, c'est-à-dire que l'axe, vous voyez, vient de la forêt ici, monte tout doucement à la terrasse, ce n'est qu'une fois en haut de la terrasse que les visiteurs aperçoivent ces fabuleux parterres, tandis que là, part vers la ville, tous ces, donc là vous avez l'orangerie, les écuries, tous ces parterres, les cascades, les fontaines, les bosquets, et puis en haut vous apercevez peut-être une petite tour, c'est la tour qui abrite la machine hydraulique de Jacques de Mans. Alors, voici une vue de Chantilly aujourd'hui, et vous voyez que le grand parti d'André Le Nôtre a été conservé. Les grands parterres, qui sont beaucoup moins fleuris qu'à l'époque d'André Le Nôtre, hein, parce qu'on a restauré ces parterres en prenant comme état de référence, l'état du XIXe siècle, hein, l'état du duc d'Aumale, le grand canal, et puis le château que vous voyez là, avec le petit château, qui est celui du XVIe siècle, transformé par le Grand Condé à la fin de sa vie, et le Grand Château, qui a été reconstruit, enfin qui a été détruit à la Révolution et reconstruit à partir de 1875. Autre vue aérienne, vous avez justement ce miracle des eaux, hein, de ce château qui est posé comme sur un lac, en fait, en quelque sorte. Donc, je vous le disais, à la fin de sa vie, le Grand Condé s'est quand même intéressé à ce château. Il avait transformé de manière tout à fait magnifique les jardins grâce à André Le Nôtre, avec des travaux qui ont duré plus de 20 ans. Il y a des sommes folles qui ont été consacrées à ça. À la fin de sa vie, le Grand Condé va demander à Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de Versailles, l'architecte de la galerie des batailles, de la galerie pardon, des glaces, de travailler au château de Chantilly. Il va imaginer ce grand parti qui transforme le grand château en haut. et aussi le petit château. Le grand il n'y aura pas assez de temps, pas assez d'argent pour transformer le grand château, mais par contre, on va pouvoir transformer le petit château dans les années 1680 en installant les appartements princiers, les appartements du Grand Condé, dont on ne conserve malheureusement plus les boiseries, parce que les boiseries ont été changées au XVIIIe siècle. Mais par contre, on conserve la grande galerie, la galerie des batailles, qui est donc construite elle aussi par Jules Lardoin-Mansart. Hein. Et cette galerie va abriter le cycle des peintures qui commémorent toutes les victoires du Grand Condé, depuis Rocroi jusqu'à Sénef, donc depuis ses premiers combats, premières victoires, jusqu'à sa retraite, avec au centre le repentir qu'on a vu tout à l'heure. Commandé à, donc tout ce cycle va être commandé dans les années 1680 à Sauveur Lecomte, qui est l'élève de Van der Meulen. Donc c'est tout cet atelier des Gobelins qui s'est fait une spécialité des peintures de bataille. Chantilly va devenir un grand lieu de fêtes, de réjouissances. Le Grand Condé va comprendre l'intérêt quasiment politique d'avoir des grandes fêtes pour faire rayonner son nom, rayonner sa gloire. Une des premières fêtes importantes, c'est l'accueil du roi de Pologne, Jean Casimir, que vous voyez à l'écran, avec derrière un bosquet avec des serviteurs en train de dresser le banquet. Vous avez au second plan le Grand Condé accueillant le roi de Pologne. Et la fête principale, vous la connaissez, c'est celle de 1671 qui va provoquer le suicide de Vatel. C'est l'un des autres grands noms de l'histoire de France qui sont restés accolés à celui du Grand Condé. C'est en 1671, on est ici du 23 au 25 avril 1671, c'est le premier séjour de Louis XIV à Chantilly, un Chantilly transformé par André Le Nôtre. Le Grand Condé est fier de son grand œuvre et le roi est attendu avec 2000 courtisans, toute la cour. Vatel, qui n'est pas cuisinier, qui n'a pas inventé la crème chantilly, contrairement à ce que j'entends tout le temps. En fait, la crème chantilly a été inventée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et surtout, Vatel n'était pas cuisinier. Hein. Il était maître d'hôtel, grand intendant. Il s'occupait de l'approvisionnement, du fourrage, de l'hébergement. C'est le grand ordonnancier de tout cela. Donc, il s'occupe, il est surmené, il est en burn-out, hein, pour parler aussi de manière contemporaine. Ça fait 15 jours qu'il n'a pas dormi, il s'occupe de tout ce monde-là, de loger tout le monde. Il s'occupe des préparatifs. Et le deuxième jour, c'est un vendredi, vous connaissez l'histoire. Le vendredi midi, on mange du poisson. Il a commandé du poisson à tous les ports du nord du royaume. Et ce poisson n'arrive pas. Le Vatel se croit perdu d'honneur. Il pense qu'il n'aura rien à servir à la table du roi. Il monte dans sa chambre et il se suicide. Il se passe une épée à travers le corps. C'est un peu la personnification de la perfection à la française. Et pendant que finalement l'épée transperce son cœur, on sait que le poisson arrive sur les routes depuis la Normandie. Alors c'est une histoire fameuse, vous connaissez le film avec Gérard Depardieu, mais ça va être vraiment un grand moment de Chantilly, ça va être, mis à part cet événement tragique, une grande réussite, des feux d'artifice, des banquets, des ballets, et vous avez ici une des représentations de cette fête. Une fête où on donne beaucoup de pièces de théâtre, hein. Il faut savoir que le Grand Condé n'est pas seulement un militaire un peu crotté, c'est aussi un grand ami des écrivains, un grand lecteur assidu. Vous le voyez ici représenté dans sa bibliothèque, dans ce médaillon conservé à Londres, Victoria and Albert Museum. Il faut savoir que le Grand Condé a protégé tous les grands écrivains du siècle de Louis XIV. Tous lui sont proches. Corneille, Racine, La Bruyère, Boileau, La Fontaine, Corneille, je l'ai dit, Molière, tous sont proches du prince, tous lui dédient des œuvres, et c'est notamment le cas de Molière, qui est protégé par Condé lors de la querelle du Tartuffe, hein, vous savez, cette satire de la fausse dévotion qui se moque, hein, donc des dévots, et qui provoque plusieurs difficultés pour Molière, hein. Cette pièce est interdite à Versailles, et Condé va faire jouer cette pièce en signe de soutien à Molière, si bien que 4 ans plus tard, en 1668, Molière va lui dédier son Amphitryon en parlant dans sa préface du nom de Grand Condé. Hein, le nom de Grand Condé est trop glorieux pour le traiter comme on le fait de tous les autres noms. Et donc, dès ce moment-là, vous voyez, on parle de Grand Condé. Vous voyez justement ce très beau portrait assez célèbre par Pierre Mignard de Molière qui est toujours conservé à Chantilly. Un prince lettré, un prince ami des écrivains, aussi un prince collectionneur, on l'a vu tout à l'heure, qui va continuer à amasser un certain nombre d'œuvres pour sa galerie de Chantilly. Vous avez ici un très beau tableau flamand, justement, qui est un peu le fleuron de sa collection. Et puis, des peintures italiennes. Vous avez ici ce qui était dans les inventaires, nommé comme un bronzino, mais en fait qui a un allori, donc une belle Vénus maniériste, florentine, qui est aujourd'hui au musée Fabre à Montpellier, mais qui faisait partie des collections du Grand Condé. Et puis des commandes contemporaines, hein, passées aux grands peintres du siècle, c'est le cas de Pierre Mignard, qui a livré ici cette grande toile mythologique, qui est aujourd'hui conservée au Louvre, qui montre Persée ayant délivré Andromède, mais en fait Persée dans ce tableau percé, c'est le Grand Condé. Et puis surtout, vous voyez qu'au centre de la composition, vous voyez le roi Céphée, qui est le père d'Andromède, baiser la main de Percé. En fait, c'est Louis XIV qui baise la main du Grand Condé. Charles Lebrun, le premier peintre du roi, pardon, a aussi peint plusieurs toile malheureusement perdue pour le Grand Condé, mais on conserve un certain nombre de dessins préparatoires pour ces toiles, notamment au musée du Louvre. Là, c'était Bacchus et Ariane, donc de très belles compositions pour le prince. On arrive à sa mort, le temps passe. Le prince meurt en 1686 à Fontainebleau, en décembre. Il a 65 ans, hein, il est mort de maladie, hein, il avait suivi la cour à Fontainebleau. À ce moment-là, se met en place les pompes funèbres les plus glorieuses du siècle de Louis XIV. Ce n'est pas moi qui le dis, là non plus. Ce sont tous les chroniqueurs de l'époque, tous les historiens jusqu'à nos jours. Et même au château de Versailles, où en 2015 a eu lieu une exposition sur la mort du roi, on n'arrêtait pas de dire que les plus glorieuses pompes funèbres ont été celles du Grand Condé. Elles n'ont pas été payées par le roi, par contre, elles ont été payées par le fils du Grand Condé lui-même. En fait, c'était pour parachever sa légende, hein, pour que tout le monde garde à l'esprit ce prince. Alors là, vous avez c'est un dessin tout à fait inédit qui est à la Bibliothèque nationale. Vous avez toute une procession qui menait le Grand Condé jusqu'à Valry, en Bourgogne, où se trouvait la nécropole des princes de Condé. Vous avez là notamment le monument du père du Grand Condé. Donc le corps du Grand Condé a été enterré en Bourgogne, là où était un peu le fief des princes de Condé. Ensuite, deuxième étape, a eu lieu une cérémonie à Notre-Dame de Paris au mois de mars 1687, le 10 mars. Donc, pourquoi autant de temps, hein, il est mort en décembre, pourquoi on attend mars pour sa grande pompe funèbre? En fait, il a fallu plusieurs mois pour transformer Notre-Dame de Paris, pour y créer un décor, là aussi, tout à fait éphémère, tout à fait baroque, qui fait qu'on reconnaissait plus Notre-Dame de Paris. Depuis la façade jusqu'au cœur, depuis le sol jusqu'au voûte, tout avait été transformé avec des draperies, des squelettes, un décor tout à fait baroque, très éphémère, qui a coûté des centaines de milliers de livres au prince de Condé, le fils du Grand Condé. Donc là, on est devant la façade de Notre-Dame de Paris. Ici, on est dans la nef. On est entre la nef et le chœur. Vous avez un arc de triomphe éphémère qui a été dressé pour le Grand Condé avec un obélisque en haut. Et puis là, vous êtes ici dans le chœur. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait éphémères, qui n'ont pas été conservées. Mais on conserve beaucoup de dessins, beaucoup de gravures qui ont été commandées à Jean Bérin, le grand décorateur, pour diffuser un peu le souvenir de ces pompes funèbres. Et donc, vous avez ici le catafalque qui était vide, hein, parce que le corps était déjà enterré, avec un grand baldaquin. Et puis en haut, vous avez la figure de l'immortalité qui porte un médaillon, le médaillon qui représentait le Grand Condé. Tandis que tout autour, on le voit ici, tout autour, là, vous avez des tentes. En fait, ce sont des tentes parce qu'on avait imaginé un programme décoratif qui renvoyait aux grands faits militaires du Grand Condé. Et donc, c'était comme un camp militaire en deuil. Vous avez des grandes tentes ouverte par de gigantesques squelettes. Et puis, au sein de ces tentes, se trouvaient des tableaux qui commémoraient là aussi toute la carrière militaire du Grand Condé. Je finis sur deux images. Cette image-là nous fait finalement franchir un grand bond dans le temps. On est en 1830, je vous le disais, c'est la mort du dernier prince de Condé. Le dernier prince de Condé qui avait récupéré Chantilly après la Révolution. Hein. Et ce dernier prince de Condé, il meurt sans héritier. Il a choisi comme héritier le duc d'Aumale, le cinquième fils de Louis-Philippe, le dernier roi des Français, hein, pendant la monarchie de Juillet. Et ce duc d'Aumale donc devient, il s'appelle Henri d'Orléans, duc d'Aumale, c'est la famille d'Orléans. Il devient finalement l'héritier le plus riche du royaume grâce à la fortune et aux biens des princes de Condé. Et ce duc d'Aumale, durant toute sa vie, une vie qu'il va passer principalement en exil, parce que Napoléon III, après la chute de Louis-Philippe, va régner en France pendant le Second Empire, et les princes d'Orléans vont devoir s'exiler en Angleterre. Durant toute sa vie, le duc d'Aumale va essayer de rendre hommage au prince de Condé. Il va être le collectionneur le plus important en Europe du XIXe siècle. Il va consacrer toute sa fortune à amasser des œuvres d'art que vous voyez ici, hein, en partie. Hein. Il va reconstruire le château de Chantilly, hein, le château des princes de Condé. Il va restaurer les jardins. Il va amasser toutes ces œuvres d'art, je vous le disais. Il va créer un musée qu'on appelle le musée Condé, à la demande du duc d'Aumale, en hommage au prince de Condé, notamment au grand Condé. Et ce duc d'Aumale que vous voyez ici, hein, un peu au soir de sa vie, ce duc d'Aumale qui meurt en 1897, vous le voyez ici, dans le journal d'illustration, au centre de la galerie des batailles de Chantilly, face au médaillon du prince de Condé. Et finalement, les deux princes se regardent face à face. Le duc d'Aumale qui s'est identifié au prince, le duc d'Aumale qui a été même l'historien du Grand Condé, il va écrire une histoire du Grand Condé en 9 tomes. Le duc d'Aumale va toute sa vie essayer de collectionner les représentations de son prédécesseur à Chantilly et de se mettre dans les traces du Grand Condé. Et finalement, il va un peu dépasser, surpasser le Grand Condé, mais vraiment se suivre son modèle en créant le musée Condé, en léguant Chantilly, le musée Condé, toutes ses collections à l'Institut de France en 1897, parce que lui aussi est mort sans héritier. Et finalement, c'est grâce à lui, maintenant, que le domaine de Chantilly est ce qu'il est de nos jours, avec ses collections dont vous le savez, qui ne peuvent pas voyager, hein, avec un accrochage qui est immuable, c'est l'accrochage du duc d'Aumale qui ne peut pas être modifié, on en parlera peut-être à une autre occasion, mais un joyau français qui est ce domaine de Chantilly et ce musée de Condé. Je vous remercie.